Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado du bulletin GP. Mon nom est Jean-Michel et bienvenue à cet épisode. C'est malheureusement le dernier épisode de On aura la revue de l'année, puis il y a aussi deux après-courses, celui d'Abu Dhabi et d'Arabie Saoudite qui vont venir, puis un épisode d'Histoire de F1 qui va suivre. Donc, ne vous en faites pas, c'est pas encore fini pour le bulletin GP version podcast. Avant d'introduire mes collaborateurs et notre invité spécial, j'ai un éditorial évidemment d'actualité évidemment. Comme vous le savez, dimanche a été une journée sombre dans le monde de la Formule 1. Puisque nous avons appris avec tristesse le décès de Sir Francis Owen Garbett Williams, mieux connu sous le nom de Sir Frank Williams. Il est évident de dire que ça a été une figure hyper importante dans l'univers de la course automobile. Sir Frank a été un des grands membres de l'époque des garagistes, qui sont en fait des écuries indépendantes bâties dans des petits garages, et ce, peu importe le succès passé de son fondateur. Donc, Sir Frank Williams a créé d'abord sa première écurie, mais ensuite elle est passée aux mains de Walter Wolff, milliardaire canadien, qui est devenu ensuite Walter Wolff Racing. Pas de plug, je l'ai raconté aussi dans Histoire de F1, le dernier épisode. Mais Sir Frank Williams a dû tout reprendre en concevant à nouveau sa propre écurie éponyme avec l'aide de Sir Patrick Head. Quelques années plus tard, il s'est associé avec Saudia, une compagnie aérienne saoudienne basée à Jeddah, ville d'actualité. Et avec Alan Jones, il a remporté son tout premier championnat des pilotes et des constructeurs en 1980. Ce succès de Jones fut l'élan de l'écurie au cours des années 80, mais durant cette période, la vie de Frank Williams a changé. En mars 1986, au terme des essais privés à Paul Ricard, Williams fut victime d'un accident de la route le laissant tétraplégique, de la confusion. Malgré tout, il fut quand même présent pour voir Nigel Mansell et Nelson Piquet se battre pour le titre de pilote et offrir à l'écurie la couronne des constructeurs. Sir Frank Williams était un homme qui respirait la course automobile. Il ne pouvait vivre sans ce sport, et c'est d'ailleurs pourquoi Williams Grand Prix Engineering est l'une des plus vieilles écuries de Formule 1 au monde. Et que dire de sa famille? Il y a Virginia Ginny Williams, une femme très inspirante à mes yeux, qui a été d'un soutien incommensurable pour Sir Frank, surtout après l'accident de ce dernier. Allez googler le Grand Prix de Grande-Bretagne 86 à Brands Hatch, où on voit justement Ginny Williams en train de soulever avec passion le trophée du vainqueur. C'est une photo historique dans l'histoire de la Formule 1. Et évidemment, il y a sa fille Claire qui a pris les relais de son père en 2013 à la tête de l'entreprise. Entreprise évidemment car Williams Racing maintenant ne conçoit pas seulement que des Formule 1. La société construit aussi les batteries que vous retrouvez pour le championnat du monde de formule électrique et s'implique beaucoup dans le domaine de l'automobile et de l'aérospatiale, entre autres. Malgré la mort de son ami Pierce Courage lors du Grand Prix des Pays-Bas en 1970, dans une voiture montée par Frank Williams et celle évidemment d'Ayrton Senna au Grand Prix de Saint-Marin 1994, en plus de son accident d'auto en 1986, Sir Frank Williams ne s'est jamais laissé faire. Tous les témoignages d'anciens pilotes, de rivaux et autres ne sont que positifs et avec raison. Même Alex Zanardi n'a pas connu un retour en Formule 1 espéré en 1999, avait expliqué avoir signé chez Williams justement pour travailler sur les ordres de Sir Frank. Nous avons peut-être perdu un grand homme, mais je suis certain que les successeurs de la famille Williams, Doyle Capital ainsi que Jos Capito, vont s'assurer de préserver l'héritage qu'a laissé Sir Frank. Merci beaucoup, Sir Frank, pour tout ce que tu as fait pour la Formule 1. Et évidemment, nos pensées vont à la famille et aux proches de Sir Frank Williams. Alors, maintenant que l'éditorial est passé, maintenant j'accueille mes collaborateurs et invités spéciaux. Alors, j'accueille Ana Maria Mercado-Lopez. Salut, Ana Maria.
Salut, Adou.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Super. Ensuite, on a Marc-André Fortin. Salut, Marc-André.
Salut, Abdou.
Comment vas-tu?
En pleine forme, encore une fois. Une belle semaine qui a commencé.
Super. Et notre invité spécial, vous connaissez probablement son nom si vous êtes sur Facebook et si vous êtes abonné à un certain groupe de Formule 1. Il est un des deux créateurs du groupe F1 Québec et j'ai l'honneur de l'inviter avec moi. C'est Julien Légaré-Turcotte. Salut, Julien.
Bonjour, Abdou. Bonjour, Marc-André. Puis bonjour, Anna-Maria.
Comment vas-tu, Julien? Très content de t'avoir à ce podcast.
Je vais très bien puis je suis fort heureux de participer à ce podcast-là. D'ailleurs, c'est dans ma liste de podcasts sur Spotify, mon troisième le plus écouté, c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui.
Yes!
Donc, félicitations. Puis en plus, je vous ai seulement découvert, je pense que c'est en septembre. Donc, vous faites de l'excellent travail, puis c'est un honneur d'y participer aujourd'hui.
Ah, ben merci beaucoup, Julien, c'est très apprécié. Puis en plus, ironie du sort ou non, c'est l'épisode numéro 99, aka l'épisode Antonio Giovinazzi. Et évidemment, tu entretiens évidemment un culte sur notre Jésus de la Formule 1.
Tout à fait. Antonio Giovinazzi, qui par le passé, puis même encore cette année, n'a jamais obtenu le temps d'écran que je souhaitais qu'il obtienne. Mais malgré tout, on le verra pas en Formule 1 vraiment l'année prochaine. Mais il n'en demeure pas moins que je voue un culte envers Antonio Giovinazzi. Je pense que c'est un pilote qui, malgré tout, demeure sous-estimé. Mais ouais, je m'en tiens à ça pour l'instant.
Exactement. Mais au moins, là, on a la chance de le voir l'année prochaine, lorsque la saison de Formule E va commencer avec Dragon. D'ailleurs, il était en piste cette semaine pour les essais hivernaux qui ont eu lieu à Valence. Alors, Julien, évidemment, on va te poser quelques questions pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, en fait, le groupe F1 Québec, de quoi il s'agit. Alors, Julien, d'abord, d'où vient l'idée de ce groupe, en fait?
Ça faisait quand même quelques temps. Bon, faut dire que le deuxième fondateur du groupe, du moins le cofondateur du groupe, c'est mon frère, Émile Légaré-Turcotte. Puis ça faisait quand même quelques temps qu'on souhaitait créer une communauté francophone québécoise de Formule 1. Bon, on avait constaté que ça existait peu ou pas vraiment au Québec jusqu'à présent. On en voyait en Europe, en France, en Belgique, peut-être même en Suisse. Mais la réalité franco-européenne est loin d'être la même que la réalité québécoise en ce qui a trait à la F1. Donc on souhaitait créer un groupe pour échanger. Puis ça faisait quelques temps qu'on voulait le faire, mais on prenait pas vraiment l'initiative, soit par lâcheté, par manque de temps, bref, jusqu'à ce que se produise l'accident de Romain Grosjean l'an dernier, qui a été un événement assez bouleversant, puis qui a propulsé pour une rare fois depuis longtemps la F1 dans les grands médias québécois. Donc ça faisait très longtemps qu'on voyait pas vraiment une attention médiatique, je dis québécoise, mais c'est même canadienne, c'est même nord-américaine, qui est accordée à la F1, puis on s'est dit, ben, c'est peut-être un signe, c'est peut-être le temps de créer un groupe, parce qu'on veut échanger de cet événement-là. Parce que mon frère et moi, bon, on en discutait entre nous, on connaissait quelques personnes avec qui en discuter également, mais c'était infiniment restreint. Donc, on s'est dit, on va créer ça entre amis. Ça va demeurer, somme toute, très petit, mais au moins, si on est capable d'être, disons, quelques dizaines de personnes à discuter d'affaires ensemble, ben l'objectif du groupe sera rempli, puis on pourra partager une passion qui est souvent trop difficile à partager avec d'autres ici.
C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, je dois dire, effectivement, je suis abonné aussi à un ou deux groupes de Formule 1 en français, en fait, puis je constate qu'il y a effectivement très peu de Québécois. Donc, le fait d'avoir un groupe d'amateurs de Formule 1 entièrement québécois, ça fait du bien au moins parce que ça permet de voir qu'on n'est pas seul, que c'est pas un groupe assez minime. Donc, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir créé ce groupe et peut-être le seul truc que je regrette, c'est de le mettre joint un peu plus tard, évidemment. Mais évidemment, il n'est jamais trop tard, pardon, pour se joindre naturellement.
Ben non, effectivement. Puis j'en profite d'ailleurs pour justement te remercier plus particulièrement, Abdou, pour ton implication du groupe. Bon, ton implication initiale qui était de partager énormément de contenu, puis ton implication et ton implication actuelle. À titre de modérateur, que je trouve phénoménal. Puis je remercie également les autres modérateurs du groupe qui sont François, Michael, Karl et Charles. Vraiment, sans vous, ce serait impossible de maintenir une qualité de partage de contenu dans le groupe comme on a actuellement.
Ah oui, définitivement, on les salue d'ailleurs. Je pense qu'ils sont probablement en ce moment en train de partager leur top 5 de leurs artistes préférés sur Spotify Wrapped. Donc, évidemment, on les salue, puis eux aussi font du très bon travail. Mais parlons de toi et ton frère, justement, Émile, et plus j'y pense, plus je me dis, oh, j'aurais dû l'inviter.
C'est pas grave, je l'ai fait, je me suis permis de lui proposer de venir ce soir, mais malheureusement, il est indisponible. Donc,
Ah, ok.
tu peux te libérer de ce regret-là.
Phew, Dieu merci. Mais évidemment, parlons de toi et ton frère. Donc, comment est venu en fait cet intérêt pour la Formule 1, évidemment, soit avant et avant le groupe, en fait?
Ben, je pense que c'est venu d'un intérêt que plusieurs Québécois avaient vers la fin des années 90 puis le début des années 2000. Après que Jacques Villeneuve ait gagné son championnat du monde, déjà énormément de Québécois se sont intéressés à la discipline. Il y en avait quand même beaucoup à l'époque de Gilles Villeneuve, évidemment, puis après, pendant cette période transitive-là, mais quand même. Bon, je suis quelqu'un qui est né en 96, j'ai aucun souvenir, évidemment, du championnat du monde de 97, mais mes parents, eux, écoutaient, surtout mon père, écoutait la F1. Puis l'écoutait pendant quelques années, puis j'avais souvenir là, lors des dimanches matins du début des années 2000, lorsqu'on avait, par exemple, Michael Schumacher et Mika Häkkinen qui s'opposaient. Par la suite, on a eu une belle dualité entre Fernando Alonso et Michael Schumacher, évidemment. Donc, juste cette nostalgie-là associée au dimanche matin, avec le son des V10 qu'on entendait en mangeant des crêpes, ben, ça a été entretenu longtemps. Ça a commencé de là, en fait, ce souvenir-là. Puis ça s'est maintenu, bon, pendant l'époque des V8, évidemment, et puis la période actuelle là, des V6 hybrides. On a commencé cette passion-là vraiment avec notre père en écoutant la F1. Puis c'est jamais vraiment parti. En vieillissant, on a été capable de s'investir beaucoup plus dans l'appréciation de cette discipline-là, en la comprenant beaucoup plus, en étant capable d'associer les voitures à ses composantes, en comprenant un peu l'attitude des pilotes, ce genre de choses-là. On s'est mis à développer une passion, puis voilà, on n'a juste jamais, jamais décroché. On a constaté cependant que nous, on continuait à s'y intéresser, mais on sentait quand même que l'intérêt, pendant quelques années envers la F1, lui, descendait. Par contre, depuis que Netflix a sa série Drive to Survive, là, on sent vraiment quand même un essor auprès quand même d'une jeunesse. Puis même les plus vieux apprécient la F1, puis c'est fort appréciable.
L'arrivée de Lance Stroll, avoir un premier Canadien ou Québécois depuis justement Jacques Villeneuve. Je sais qu'il y a eu Robert Wickens qui s'est essayé, mais malheureusement, ça n'a pas été évidemment pour manque de fonds, évidemment, mais le fait d'avoir aussi un pilote québécois, canadien, en Formule 1 aussi a ravivé un peu l'intérêt. Je vois qu'il y avait Anna Maria qui avait une question, je crois.
Oui, il y a une question. Comment tu as fait pour maintenir la passion pendant toutes ces années? Parce que si je me rappelle bien, quand je suis arrivé au Québec, c'était comme pas beaucoup de monde qui regardait la Formule 1. Moi, au moins, moi, j'y avais pas avec qui parler. C'est juste quand il a apparu Facebook qu'on commençait à s'informer dans les groupes. Sinon, tout ce qu'on avait, c'est juste la course ici qu'on voyait dans la nouvelle et c'est tout.
Ben, je ne cacherai pas d'abord que pendant quelques années, c'est sûr que même moi, de mon côté, j'étais moins en mesure de m'intéresser à la Formule 1, faute d'avoir des gens avec qui en parler, puis de pouvoir apprécier cette discipline-là. Cependant, j'avais la chance justement d'avoir Émile, mon frère, et pouvoir en discuter avec lui régulièrement. Si j'avais pas eu quelqu'un d'aussi près de moi pour pouvoir en discuter, je sais pas si aujourd'hui j'en serais à la même place. Vraiment pas. Donc, avoir quelqu'un de proximité, ça l'a beaucoup aidé. Faut dire également que je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'univers médiatique de façon générale, que ce soit dans les sports ou voire dans d'autres sujets. Puis le fait de m'intéresser à ça, ben m'a permis de demeurer intéressé à la F1 d'une certaine façon, surtout en lisant par exemple des médias internationaux. Là, j'étais capable de demeurer à l'affût de ce qui se passait via entre autres des médias européens, là, voire des médias sud-américains. Mais autrement, si ça avait pas été de cet intérêt-là et de mon frère, je crois pas que j'aurais pu maintenir aussi facilement une passion pour la F1.
Ah, c'est bien ça. Au moins, tu as Émile, au moins, et la famille pour parler de F1. C'est quelque chose que je regrette aussi parce que moi, mon frère a été aussi fan. Toute la famille était fan de Formule 1, mais moi, à force de trop parler de F1, mon frère a perdu de l'intérêt. Donc, maintenant, il veut plus rien savoir de cela. Mais je l'ai quand même forcé. Il est quand même venu au Grand Prix du Canada 2016, quand même, quand j'ai eu des billets gratuits. Donc, au moins, il y a ça, il y a cette proximité, au moins. Et puis, j'ai remarqué aussi, quand on s'est joint, en fait, au groupe, il y a des personnalités, des noms célèbres qui sont dans le groupe. Je pense entre autres à Louis-Philippe Guy, animateur au 91.9 Sport, Philippe Lagu, chroniqueur au réseau Cogeco, entre autres pour la Formule 1, et même un certain Bertrand Godin. Quand même.
Rien de moins.
Donc, évidemment, c'est un succès en soi d'avoir des noms assez connus dans l'univers de la course automobile au Québec qui se joignent au groupe et qui participent en plus. Je pense entre autres à Louis-Philippe ou bien même Philippe avec le partage de son blog, justement. Donc, je trouve que c'est quand même un succès d'avoir ces personnes qui sont imprégnés dans l'univers de l'automobile, à se joindre dans un groupe avec plein d'autres personnes.
Effectivement, puis j'en profite également pour parler d'Élise Racette, qui est dans le groupe, qui est la présidente du Automobile Club, si je me rappelle bien, qui gère toute la partie locale de la FIA.
Oui.
Vraiment, c'est des membres que j'apprécie infiniment d'avoir dans le groupe. Je m'attendais pas à les avoir. Lorsque j'ai démarré le groupe, je pensais justement avoir peut-être 2-3 dizaines de membres que je connais sans plus. Finalement, on est rendu à plus de 2200 personnes, donc déjà. Puis non seulement 2200 personnes, mais comme tu l'as mentionné, des personnes qui sont des acteurs très importants dans le milieu de la F1 au Québec. Donc, j'adore voir à quel point ce groupe-là permet d'avoir des interactions entre des personnes de renom de la F1 puis des gens qui sont simplement là par intérêt pour la discipline. Donc, de voir cette proximité-là, puis de voir les échanges, je ne peux être mieux servi par le groupe présentement.
Ah oui, définitivement. Puis c'est une joie aussi, par exemple, je prends l'exemple de Philippe Lagu, d'avoir justement ses blogs après chaque Grand Prix qu'il partage aussi, qu'on soit d'accord ou pas, au moins ça crée un champ de discussion assez important. Et même Louis-Philippe avec ses avec ses jeux de mots du jour aussi, parfois quand il en fait aussi les memes qu'il nous partage aussi, c'est une joie de voir ça aussi, de voir des acteurs importants dans la médiatisation de la course automobile au Québec venir s'impliquer comme ça. Et puis ne pas faire comme s'ils étaient de haut, là. Ils sont vraiment terre à terre. Donc, c'est vraiment incroyable à voir. Puis, si jamais ils nous écoutent, je les salue d'ailleurs.
C'est très gentil de les saluer. Puis, j'en profite aussi pour saluer et puis remercier Benoît Tremblay, qui je crois est toujours photographe officiel pour la F1 puis qui nous partage souvent ses
albums. Ah oui,
c'est
ça.
C'est une ressource inestimable à avoir pour le groupe, vraiment. Ah oui. Ces photos-là exclusives. Un partage de contenu comme ça, C'est ce que je rêvais, donc c'est ce que je rêvais que le groupe devienne, puis il est devenu beaucoup plus rapidement que ce que je pensais.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui caractérise ce groupe comparé aux autres qu'on peut retrouver sur les internets?
Ben encore, bon, plusieurs choses. La première, c'est certainement cette proximité-là dont je parlais entre des acteurs importants de la F1, puis des membres qui sont là purement par passion. Le fait que le groupe permette ces échanges-là, je qualifierais pas ça d'unique parce que bon, je pourrais pas prétendre ça, je ne suis pas dans tous les groupes de F1 au monde, mais du moins dans ceux dans lesquels je suis, j'ai pas vu de cas semblables pour l'instant. Ce que j'apprécie aussi dans le groupe énormément, comparativement à d'autres, c'est que, bon, c'est sûr qu'il y a de la partisanerie, comme dans tous les groupes de sport. Puis voir des groupes de politique, bref, la partisanerie, on y échappera jamais. Il en demeure pas moins que je trouve les membres, là, de façon générale, très respectueux.
Oui.
Puis ça, j'y tiens dans leurs échanges. On a beau être un fan de Mercedes, de Red Bull ou de Ferrari, j'ai vraiment l'impression, ben même j'ai la conviction que les membres font tout pour nuancer leurs propos, puis d'éviter de tomber dans des attaques personnelles d'abord, voire même dans des attaques envers des pilotes ou des écuries. On s'en tient à des propos qui sont factuels. C'est évidemment permis d'avoir des opinions, autrement le groupe n'aurait pas lieu d'être, mais tout de même, les gens nuancent leurs propos, ils font attention à ce qu'ils disent. Les membres sont respectueux. Donc, puis je constate que dans le groupe, dans d'autres groupes, par exemple, c'est très facile de perdre le contrôle. Sans dire qu'on veut avoir le contrôle des membres, au moins, on veut juste s'assurer que les échanges, que tous puissent se sentir à l'aise d'échanger, peu importe les opinions, peu importe si tu es un expert ou tu es un néophyte dans le domaine. C'est important de pouvoir s'informer sans rentrer dans un gatekeeping abusif qui éloigne des nouvelles personnes envers la discipline. Donc, j'ai vraiment l'impression que F1 Québec permet des échanges, peu importe c'est quoi ton nom, peu importe c'est quoi ton background, par donner l'anglicisme, tout le monde est bienvenu.
Marc-André, tu avais une question?
Oui, mais non, c'était juste pour ajouter mon grain de sel. Quand je suis entré dans le groupe, j'ai eu l'impression un peu d'entrer dans une fin de semaine de Grand Prix à Montréal. Tu sais, on se côtoie tous. On est des fans de Ferrari, de Mercedes, de Red Bull, mais au circuit, on se côtoie tous puis on est respectueux entre nous. J'ai jamais vu de bagarre non plus au circuit. Donc, j'ai eu l'impression, quand j'ai entré dans le groupe, justement, ce sentiment d'un peu rentrer dans une fin de semaine de Grand Prix.
Ah oui, définitivement.
Wow. C'est le genre de commentaires que j'aime beaucoup entendre. Vraiment, c'est à ça que le groupe sert. Puis effectivement, les ambiances de Grand Prix, c'est quelque chose de plus plaisant que ça, je ne sais pas, là, mais de savoir que tu es capable de ressentir un peu le même effet à moindre échelle dans le groupe, pour moi, c'est un cadeau.
Ah oui, je partage les propos de Marc-André. Il y a vraiment une allure de fin de semaine de Grand Prix. De semaine de Grand Prix du Canada même, parce que au niveau, en fait, comment il y a une interaction, il y a une proximité envers tout le monde. Peu importe ce qui se passe, peu importe de qui tu supportes, d'où tu viens, là, on est comme une grande famille. Et c'est pour ça aussi que j'adore discuter avec les gens du groupe aussi. C'est que au moins il y a pas de tacle glissé, il y a pas d'attaque personnelle. Je suis vraiment content de voir que et ce même avec la modération qui est faite par le groupe, que ce soit par toi, Émile, Charles, François, Michael, puis même moi aussi, je vois qu'on a très peu besoin de ça, parce que il y a rien. Il peut y arriver des dérapages, c'est certain.
Mais c'est comme très accueillant.
Oui.
On se sent bien, il n'y a pas personne pour te déranger, parce que d'habitude, c'est la jungle. Dans les groupes Facebook, F1. Oh là là.
Même sur Twitter.
Quelque chose, surtout s'ils sont espagnols, quelque chose. Oh là là.
L'enchaîne.
Oh là là. Oh. J'ai vu déjà. Au moins là, on peut parler de ce qu'on aime. Et ça, j'aime parce que des fois, le monde, il va tout suivre les attaques personnelles. Non, mais moi, d'habitude, je me fais dire, non, tu es canadien, c'est pour ça que tu défends les trolls. Et ça va avec moi tout de suite.
Ouais.
Le monde oublie totalement la course, mais dans les groupes, il est tranquille. Tout le monde, comme disait Marc-André, on se sent comme quand on arrive au circuit, on ne se connaît même pas, on ne vient même pas de la même place, tout le monde ne sait pas, tout le monde est content, même si quelqu'un y a la chandail Ferrari, l'autre y a la Mercedes, ça a plus d'importance, tout le monde y est bien.
Je suis d'accord. Je pense que
ça amène aussi le petit moment nostalgique qu'on n'a pas connu depuis longtemps là, en raison de la pandémie. Donc,
en plus,
pouvoir avoir cet élément-là dans notre vie au quotidien.
Ah, oui, ça nous manque la course à Montréal.
Ah oui.
Puis le groupe n'a pas encore vécu de Grand Prix du Canada.
C'est ça.
Donc, j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Là.
Ouais.
Le groupe en soi, l'ambiance, est-ce qu'il y a des gens qui vont faire des lives ou je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai été sur place, chose certaine, au Grand Prix du Canada, mais j'ai hâte d'avoir de quoi aura l'air la gestion pendant ce week-end-là. J'ai l'impression qu'on va être occupé.
Ah, pas mal. C'est sûr. Et j'avais même lu aussi que, bon, si on pouvait s'organiser, en fait, un genre de meet-up.
Évidemment.
Oui,
c'est dans les plans, je pense. Moi, j'avais pensé... je ne sais pas si ça avait déjà été fait, mais un appel à tous pour des diffusions dans plusieurs villes où on pourrait se rejoindre pour regarder, s'arranger avec des gestionnaires de bord pour qu'ils nous ouvrent le matin, des fois, peut-être pour diffuser des courses aussi, ça pourrait être cool. C'était une idée que j'avais eue dernièrement, justement.
Ah, tu vois, ça c'est parfait, ça. Des gens de watch-along dans un bar autour du...
On le fait pour le soccer, pourquoi pas pour la Formule 1.
C'est vrai. J'adore l'idée.
Fait, Ah oui, écoute, s'il y en a qui... S'il y en a qui se
lèvent, j'adore l'idée.
Il y en a qui font des sauts de déjeuner, surtout parce que c'est toujours...
Ça pourrait être au courant.
Ah oui, effectivement. Écoute, il y a des possibilités infimes. De toute façon, on a déjà eu ça quand Villeneuve a gagné son titre en 97 au Complexe des Jardins. Shit! Écoute, pour une course à 8 heures du matin, il y avait des passionnés. Alors... C'est possible que ça se fasse et puis je suis sûr et certain que avec le groupe F1 Québec, c'est possible. Donc,
j'adore ton idée, Marc-André. On y avait pensé pour une plateforme comme Discord, par exemple, faire un watch-along, mais on a peur un peu que ça devienne cacophonique.
Ouais.
On n'a pas confiance aux gens, mais ça risque de devenir cacophonique si tout le monde a leur micro ouvert et qu'on écoute un Grand Prix ensemble. Il y en a qui vont être sur différentes plateformes, donc on ne sera pas capable de regarder peut-être les événements tous en même temps. Il y aura peut-être une seconde d'intervalle, mais de le faire dans un restaurant, le matin, voir un bar... Écoute, tu viens de semer une idée que j'aime beaucoup.
Ouais.
Il y avait les Grands Prix, les Grands Prix de Japon, Australie, ça c'est parfait.
Ah oui, oui.
Et avec... Des heures,
pas possible.
Ouais.
Incroyable. Ah oui, écoute, et avec les bars qui ferment à 3 heures en plus, c'est un avantage. Ontario.
Ça fait. Bon, je disais que je voulais pas que ça devienne cacophonique, mais peut-être qu'il y a un Grand Prix du Japon à 1h du matin, je sais pas si ça risque de l'être un peu.
Ouais.
Ça vient y passer.
Ouais, surtout si.
Pour différentes raisons.
Pour différentes raisons, effectivement, qu'on n'évoquera pas, en fait. mais sinon, toi, quel a été ton meilleur et pire moment dans ce groupe après déjà un an, en fait?
Excellente question. Je dirais que mon meilleur... Il n'y a pas un meilleur moment en particulier, mais les meilleurs moments se regroupent toujours autour d'un certain concept. C'est lorsque je reçois, lorsqu'on reçoit, que ce soit en privé ou en commentaire, des témoignages comme quoi le groupe permet les échanges, permet justement de s'exprimer en toute confiance. Moi, j'adore ça. À chaque fois, je suis très heureux. J'aime ça aussi me faire poser des questions sur la F1. C'est tellement quelque chose que j'aime vulgariser, que j'aime expliquer. que lorsque je reçois, par exemple, en privé des messages, peux-tu me parler du format sprint, par exemple? Ben, ça va me faire un immense plaisir de pouvoir l'expliquer. Puis ça, je considère que ce sont vraiment de beaux moments. Sinon, en termes vraiment d'événements qui ont pu se produire en Formule 1, c'est vraiment difficile à dire. Je dirais probablement, là ça va peut-être être un peu partisan, là, mais je me rappelle lorsque Charles Leclerc a eu sa pole position, les réactions dans le groupe ont vraiment été incroyables. Il y a eu ce moment-là. Lorsqu'il y a eu sa pole position cette année avec Ferrari, là, bon, il y a eu le drapeau rouge par la suite, là, puis ça a ajouté peut-être une certaine controverse.
Ah ouais.
Mais tout de même, ça a généré de beaux moments. Et lorsqu'il y a eu le moment aussi où, vous vous en rappelez fort probablement, où Romain Grosjean a enfilé un chandail du Canadien de Montréal puis l'a publié sur les réseaux sociaux. Lorsque ça a été intégré au groupe, ça a encore une fois généré des réactions.
Ouais.
On sentait vraiment une belle unité autour de ça, d'autant plus que le Canadien se rendait en finale de la Coupe Stanley. Sinon, des moments coup de cœur, j'irais avec les témoignages des deux ingénieurs du groupe, les deux ingénieurs d'Alpine du groupe,
oui,
qui ont partagé deux magnifiques photos. Honnêtement, là, c'est exceptionnel de pouvoir avoir ce contenu-là dans le groupe, d'avoir des gens qui sont directement impliqués, qui sont dans les secrets des dieux des écuries. Puis bon, évidemment, ils nous partageront certainement pas les blueprints des Alpines, mais tout de même, juste d'avoir une photo comme ça, puis de nous partager ça, moi, c'est le grand bonheur. Sinon, des moments que j'ai moins aimé du groupe, ben, c'est sûr que d'intervenir. Lorsque des gens s'attaquent personnellement, c'est pas arrivé souvent. Mais à chaque fois que ça arrive, c'est pas le genre d'intervention que j'aime faire du tout. Ouais. Ça l'implique parfois qu'on doit bannir des membres ou juste... Généralement, c'est l'option qu'on tente le moins d'atteindre, mais ça peut arriver que ça se produise.
Ouais.
Mais généralement, on a plus l'objectif de faire un commentaire d'avertissement que tout le monde peut voir. Puis, ça permet aux gens de comprendre un peu c'est quoi l'essence du groupe, c'est quoi les types d'échanges qu'on veut avoir.
Mm-hmm.
Puis là, il y a une compréhension assez rapide pour ça. Là. Mais sinon, des moments sombres pour le groupe, il n'y en a vraiment pas. Là. C'est quasiment entièrement positif.
Ah oui, définitivement. Et puis même, je te dirais, je m'attendais, surtout après le fameux Grand Prix de Grande-Bretagne, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé durant cette course, mais je m'attendais à ce que ça dérape, mais au final, ça s'est limité quand même là. Donc au moins il y a ça aussi. Et puis il y a eu ce fameux non Grand Prix de Belgique. Ça au moins ça c'était vraiment fun en fait. C'est vraiment fun à voir, en fait, parce que tout le monde s'amusait, en fait, pendant que nous, on attendait qu'on ait une course, si on peut dire. Mais non, vraiment, l'ambiance était bonne. Et aussi, les deux ingénieurs chez Alpine aussi. Là, ça, c'est un gros dub. C'est probablement, personnellement, la photo qui nous a montré avec le trophée de Fernando. Probablement une des plus belles photos de l'histoire du groupe, parce que ça prouve à quel point eux, ils ont réussi à nous montrer les coulisses un peu du retour du podium de Nando, mais aussi de nous montrer un peu l'envers du décor chez Alpine, évidemment, tout en restant professionnel, sans savoir, par exemple, qu'est-ce que mange Fernando pour dîner et tout, là. Donc, je sais qu'Anna Maria aurait aimé ça, mais...
Moi,
c'était ça. Ouais, ça aurait été très utile aussi, mais non, j'aime beaucoup.
Je veux pas t'aider là-dessus.
Ah, ok, tu me diras en privé.
Non.
Mais non, au moins j'adore ce groupe, et en plus, je pense que le temps Moi, je te dirais, le temps que je passe sur Facebook maintenant, c'est plus, par exemple, à partager des mèmes ou des nouvelles de l'actualité. C'est vraiment me concentrer sur le groupe F1 parce que au moins, il y a une communauté avec qui je peux parler, je peux lire, évidemment. Parce que, soyons honnêtes, Facebook, ça commence... C'est quoi? C'est un dumpster fire?
C'est mort.
Ouais.
Il ne s'aide pas non plus avec les...
Ouais.
Avec les nouvelles de 5 jours qu'on reçoit, là, donc...
Mm-hmm. Donc, le fait d'avoir le groupe F1 Québec, un peu, c'est un peu une...
On se sent moins seul.
Se sent moins seul, exactement.
Avant, là, je pense que la seule personne à parler à la maison qui parlait avec des Formule 1, c'est Adou, je pense, en Twitter.
Ouais. Ouais, sur Twitter aussi.
Et après, c'était aussi petit la communauté que je connaissais quand même, comme tous les journalistes qui à peu près parlaient de ça ou qui sont poignés avec la Formule 1 parce qu'il y a quelqu'un qui est pas là.
Mm-hmm.
Et sinon, c'est OK.
Ah oui, non, vraiment. Je te lève le chapeau, Julien et Émile aussi. Pour avoir créé un groupe vraiment excellent, vraiment 2000 et ça, plus de 2000 abonnés et je sais pas si c'était en fin de semaine où on a eu, je pense, un nombre assez élevé d'admissions en fait, mais vraiment ça a été, je te lève mon chapeau ainsi qu'à Émile d'avoir créé un groupe. Où les fans de courses automobiles de Formule 1 au Québec peuvent se réunir pour discuter de leur passion, peu importe les allégeances. Et évidemment, certes, ça fait un an, mais si Facebook est capable de se tenir mentalement aussi, là, au moins, je vous souhaite d'en avoir beaucoup plus parce que sérieusement, c'est un groupe très, très différent et très accueillant où au moins on ne se sent pas... on n'a pas besoin de quitter les réseaux sociaux quand, par exemple, un pilote a tweeté quelque chose comme quoi il allait vivre à Monaco. Je sais, anyone. mais au moins, c'est ça, c'est vraiment un feel-good story, cette histoire du groupe F1 Québec. Puis, sincèrement, on est vraiment content de se joindre et de faire partie de ce groupe, en fait.
Je vous remercie infiniment pour vos bons mots. Merci encore une fois, Abdou, pour toute ton implication, tous tes partages, ton travail exceptionnel de modération. Tu parlais du nombre de membres qui a augmenté beaucoup ce week-end. Écoute, tu les acceptes tellement vite, j'ai à peine le temps de les voir. Tu fais un travail vraiment, t'as une implication incroyable. Puis j'ai hâte, Marc-André, Anna-Maria, j'ai hâte de vous voir publier. Vous êtes évidemment les bienvenus. Je ne vous ai pas vu si souvent interagir. Là. Fait que là, moi, après ce soir, là, je m'attends.
Oh. Je m'attends rien de moins
que de lire vos commentaires.
J'ai rendu un petit peu dans les commentaires. C'est ça.
Ouais.
Okay. Pas beaucoup. Très bien. Je sais.
Mais c'est ça, mais là, depuis qu'Abdou a parlé d'une passion pour Fernando Alonso, moi, je m'attends à voir du contenu exclusif sur Fernando Alonso. Quand même, après, c'est un bon podcast.
Ouais, donc pas de pression à Marc-André, Anna Maria. Non, évidemment, vous êtes la bienvenue, évidemment. Julien, est-ce que tu, comme le dirait un certain animateur d'une émission de fin de soirée le dimanche à Radio-Canada, est-ce que tu veux rester avec nous?
Oui, j'ai pas un autobus électoral qui m'attend. C'est pas mon excuse pour pouvoir me défiler aussi facilement. Donc, je vais pouvoir rester avec vous. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait du vin quand même. Habituellement, là, quelqu'un offre du vin, mais là, finalement, on va s'entendre.
Je pourrais demander au Jésus de la Formule 1 de transformer mon eau en vin.
Ah, ben...
Ah.
Voilà.
Wow. Ça, Ça, ça va être dans les meilleurs moments de l'année du bulletin GP, ça. super. Mais écoute, ça risque... parce que le prochain sujet risque de rentrer un peu dans les discussions, comme on disait, un peu à la... J'espère pas à la 110%. Mais on va parler des commissaires de la FIA parce qu'évidemment, on arrive dans... Oh, et qu'est-ce qu'Anna Maria nous montre?
Arabie Saoudite, il fait des efforts. J'amène mon combat. Ils ont mis Sylvia Bellotte comme steward.
Oh, OK!
Oui, c'est elle. Elle est de Barcelone.
OK! Ça, c'est pour la course en Arabie Saoudite.
Oui.
OK.
Yes.
Parce que justement, on va parler des commissaires, évidemment, avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi, les deux dernières courses de la saison, avec un championnat en jeu et ouais, les décisions qu'on a eues lors du Grand
Prix. Il y a quelqu'un qui aime moins,
regarde. Oh! Ah, OK. Elle nous montre un ancien pilote de Formule 1 du nom de Vittorio Liuzzi qui a fait partie des commissaires de la FIA, évidemment.
Il est toujours dans les situations controversées.
Oui, exactement.
Il tombera ça toujours dans les 27.
Et puis il va avoir un peu de défis aujourd'hui pour les prochains Grands Prix parce qu'évidemment, on se demandait est-ce que... Comment vous trouvez le travail des commissaires de la FIA, pas seulement cette année, mais aussi en général? Parce qu'évidemment, avec le temps d'attente qu'on a eu pour savoir est-ce que Lewis Hamilton allait être disqualifié ou non lors du Grand Prix, après les qualifications du Grand Prix du Brésil, l'histoire des drapeaux jaunes où on a attendu, jusqu'à samedi matin... pour avoir la décision finale, même dimanche, quelques heures avant la course. Qu'est-ce que vous pensez du travail des commissaires? Puis je vais commencer, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, avec Maître Julien Turcotte.
Merci beaucoup. Pas besoin des formalités procédurales pour ce soir, mais je te remercie quand même pour l'honneur à vous. Quelque chose que je remarque beaucoup chez les commissaires dernièrement, là, si je peux me permettre une critique, c'est leur inconsistance. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a énormément de fans qui vont critiquer le travail des commissaires. Là. C'est qu'il y a une inconsistance d'une décision à l'autre. C'est comme si les précédents pour eux n'existaient pas. Puis c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on est incapable. Il y a une imprévisibilité constante. Du moment que quelque chose doit être rendu, du moment qu'une décision doit être rendue, puis ce que j'aime pas, puis que je sens chez les commissaires, c'est que lorsqu'un événement se produit, par exemple, que ce soit à Silverstone, que ce soit ailleurs, bref, un événement se produit, puis les commissaires vont prendre une décision pas en fonction des faits, mais vont prendre une décision en fonction du résultat qu'il y a eu. Puis en fonction du contexte du championnat. Donc, par exemple, si on est pendant une période serrée en termes de points dans un championnat où deux pilotes risquent fort probablement de remporter un championnat du monde, ben j'ai l'impression que ça va énormément teinter la décision que vont prendre les commissaires. Alors que, selon moi, les décisions devraient être prises sur les faits et non sur et non parce qu'il pourrait avoir une influence médiatique de leur décision. J'ai vraiment l'impression que le Grand Prix du Canada 2019 a traumatisé les commissaires.
Oui.
De sorte qu'aujourd'hui, leurs décisions vont être inconsistantes. Ils vont manquer de rigueur, puis vont être extrêmement lentes avant d'être rendues. Pour, je sais pas, créer une éclipse médiatique, c'est une stratégie, bref, c'est vraiment ce que j'ai reproché au commissaire cette année.
Mm-hmm. Ouais. Marc-André, Anna-Maria, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au propos de Julien?
Ben, j'ajouterais le mot jurisprudence qui, on dirait, n'existe plus depuis à peu près un an, je dirais, que je trouve que la jurisprudence est peut-être moins un mot utilisé par les commissaires. On voit, par exemple, un incident qui, par exemple, je me rappelle, je pense, en Espagne, une collision très ressemblante à une autre dans un autre Grand Prix. Bien, à ce moment-là, bien souvent, ce n'est même pas la même décision qui est remise sur la table, alors que les incidents sont tellement semblables. Et justement, il y a peut-être une histoire de contexte, justement, qui est pris par les commissaires en compte, et c'est ça qui diffère de la décision. Mais en théorie, Julien avait complètement raison, on doit se fier sur les faits. Et justement, si un championnat doit se décider parce qu'un pilote a mal agi sur la piste, ben c'est ça, c'est comme ça qu'on doit prendre la décision. Parce que, en fin de compte, c'est sûr que si un pilote est plus agressif ou prend moins soin d'être respectueux sur la piste et qu'il arrive des incidents, bien sûr qu'il doit être pénalisé. Donc, je crois vraiment que c'est une histoire de jurisprudence et d'incontinence, effectivement.
Mmh. Oui, il y a l'inconsistance, mais je pense que ça existe depuis toujours. Mais maintenant, on la sent plus fort parce qu'avant, au moins, Charlie Whiting, il était capable d'expliquer, il était capable de prendre des décisions, il était capable d'affronter les équipes. Ce n'est pas le cas maintenant parce que Massi, on dirait que lui apporte de tout le monde. Il apporte des commissaires, il apporte des équipes. Toutes les décisions se prennent, ça dépend ce que l'équipe, le pilote, parce que quand ça arrive un incident qui, avant je mettais toujours l'exemple de Grosjean ou de Maldonado, mais maintenant si c'est Mazepin, c'est sûr, il n'y a pas de problème, ils vont sanctionner tout de suite, personne ne dit rien, mais si ça arrive que c'est Hamilton, par exemple. Ça va prendre des temps, ça va prendre des jours, des fois, même s'il y a le drapeau jaune qui était là, qui, pendant que lui, il passait, ils ne vont pas prendre la décision tout de suite. À la place, si c'est un autre pilote, il n'y a pas de problème. La décision s'est rendue tout de suite. Il doit parler de ce Grand Prix du Canada où ils n'ont même pas réfléchi. Et regarde, au moment de donner des pénalités aussi, ils ne prennent pas en compte c'est quoi l'impact sur le pilote qui a commis la faute. Parce que si c'est dit, c'est 5 secondes s'il fait ça. Mais oui, mais avec l'action, il vient de laisser dehors un pilote. Il n'y avait pas de points, fait que pour lui c'est gagnant quand même. Si tu donnes 5 secondes de pénalité à un pilote qui peut prendre 10-20 d'avantage tout le temps, c'est gagnant. Et c'est ça le problème. Il y a le temps que ça prend pour donner la punition, il y a aussi les punitions qui donnent que des fois il n'y a pas de sens. Y y aussi el incidente a Silverstone y donde 10 segundos a Hamilton y el hombre se ferrió y donde 10 segundos a Hamilton y gana también porque oui, lui es capaz de estar avant y de hacer eso y après un otro piloto y fait quelque chose y van a donar 3 places dans la grille de départ, Bottas un gris y le dan 10 places a la grille porque il a sorti du Red Bull. Grosjean 2012, qu'est-ce qu'il y a eu comme pénalité? Il était banni pour une course au moins. La course qui était plus une course, la course suivante. Et lui, il n'a pas fait aussi de dégâts.
Ouais. Avant de laisser Marc-André parler, je vais juste répliquer au propos d'Anna Maria. La différence, en fait, c'est que maintenant, il y a le système de points de pénalité, ce que Grosjean n'avait pas. Et en plus de ça, Grosjean, c'était des répétitions d'offense. Donc, à un moment donné, lorsque l'incident s'est produit, là, les commissaires ont dit, « Ben, écoute, on en a assez. Là, tu es suspendu pour une course et tu vas réfléchir à ce que tu as fait. » Donc, c'est là l'accumulation, en fait, Et c'est ce moment, en fait, qui a fait en sorte que maintenant, on a des points de pénalité jusqu'à 12 sur une période de 1 an. Et Dieu merci, personne n'a été suspendu pour une course après l'accumulation de
points. Parce que ça va pas arriver.
Ça va pas arriver.
À chaque fois que quelqu'un approche, je ne sais pas, magiquement, ça attend qu'au ouais. moins ça commence à se défaire des points.
Ouais, mais aussi le truc, c'est que Michael Massey, lui, il ne peut pas répondre pour les commissaires parce que ce n'est pas lui qui prend les décisions, ce sont les commissaires qui se réunissent.
Mais c'est ça le problème de Massey. Lui, il ne doit pas répondre pour les commissaires, mais lui intervient tout le temps. Parce que la question de donner l'explication, pourquoi c'est que Verstappen il y a eu sa pénalité ou pas eu de pénalité, c'est pas lui de donner d'explication. C'est sûr que lui, c'est le boss de commissaire, mais lui aussi, il y a un mot à dire. Mais il prend tout le temps l'avant pour expliquer quelque chose que lui, il ne sait même pas, parce que des fois, il est mêlé avec les réglementations aussi.
Ouais. Marc-André, tu voulais répliquer
Oui, ben, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il serait peut-être pas grand temps de monter le nombre de secondes à peut-être, je sais pas moi, 15, 20, peut-être le plus c'est peut-être exagéré, mais au moins à 20 pour des incidents comme Hamilton qui, dans les faits, avait quand même une influence. Bon, là, je parle pas sur le championnat, mais dans les faits, Hamilton est arrivé très en retard dans le virage, a causé un accident quand même grave. Est-ce qu'on serait pas grand temps de monter le nombre de secondes?
Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que le problème, ce n'est pas la réglementation, parce que ça existe déjà. Il y a des pilotes pour les passer que pour des actions comme ça, ils ont mis un drapeau un drapeau noir. C'est tout. Il est éliminé de la course. Ici, au Canada, il s'est passé plusieurs fois des pilotes qui se font donner un drapeau noir parce qu'ils ont accroché quelqu'un de façon qu'ils ne devraient pas. Et c'est ça ce qui n'arrive pas maintenant, parce que maintenant, il se passe des choses. Et je ne sais pas, l'année passée, il a commencé à sortir les drapeaux noirs et blancs, qu'on ne connaissait même pas déjà que ça existait. Pour juste un petit avertissement, pour ne pas pénaliser.
Julien, est-ce que tu crois qu'on devrait, pour répondre à la question de Marc-André, tu crois qu'on devrait ajouter le nombre de secondes de pénalité pour être un peu plus sévère?
Ben, je crois pas que pour l'instant ce soit nécessairement la solution. Encore une fois, j'irais beaucoup plus vers de la consistance, parce que si on augmente le nombre de secondes de pénalité, c'est possible de le faire. Cependant, ça, dans le contexte actuel, ça pourrait ajouter encore plus d'inconsistance qu'est-ce qu'il y en a déjà présentement. Parce que bon, là, on a des barèmes de 5 secondes, on a des barèmes de 10 secondes, mais là, si on se met à tomber dans des barèmes de 15 et 20 secondes en plus, si les commissaires, eux, de leur côté, ne changent pas leur façon de faire, ça va devenir encore plus difficile de suivre puis de prévoir les décisions qui seront rendues, parce que en plus il n'y aura pas de précédent. Déjà qu'ils n'appliquent pas les précédents de façon actuelle, si on ajoute la nouvelle réglementation, j'ose à peine imaginer à quel point ça va complexifier.
Ouais, exactement.
À quel point ça va complexifier la prise de décision. Donc pour l'instant, comme je l'ai mentionné, moi, j'y vais beaucoup plus pour de la consistance que d'y aller dans un changement de pénalité. Surtout avec la nouvelle réglementation qui s'en vient.
Ouais.
Déjà avec ça, j'aurais tendance à limiter les changements législatifs.
Ouais. Et il y a cette semaine, d'ailleurs, de Race Fans qui a posé cette question. Est-ce qu'il serait grand temps de passer à des commissaires de piste permanents? Parce que, comme Anna-Maria nous a dit, il y a Sylvia Bellotte qui non seulement s'occupe, qui est commissaire de piste, mais aussi qui gère tout ce qui est la direction de course pour la Formule 2 et Formule 3. Il y a Vitantonio Liuzzi. On a aussi Danny Sullivan qui est non seulement un ancien pilote de Formule 1, mais un vainqueur des 500 000 d'Indianapolis, qui agit aussi à titre de commissaire de piste. Mika Salo aussi. Donc, est-ce que vous pensez que la Formule 1 devrait tester un système de commissaire permanent?
Si je peux commencer, je crois que le système actuel fonctionne, mais en même temps, non. Je vais essayer de m'expliquer clairement. J'ai l'impression que ce que la Formule 1 a voulu faire, c'est amener des opinions différentes à certains grands prix, ce qui est bon parce que, bon, ça ajoute des opinions qui sont pas pareilles que les autres. Cependant, ce que ça ajoute, bien sûr, c'est de l'inconstance et de la difficulté à voir le précédent, comme Julien amenait plus tôt. Parce que, bon, ils n'ont pas été là dans la décision, par exemple, qu'il arrive quelque chose en Espagne, mais ils n'ont pas été là en Espagne pour peut-être se rappeler des discussions qu'ils ont eues entre eux. Donc, oui, j'ai l'impression que ça pourrait être une bonne idée pour justement que ce soit les mêmes personnes qui prennent les mêmes décisions et qui se souviennent justement que, bon, au Brésil, il s'est passé ça, ben pendant 15 minutes, ils ont parlé de, OK, si un pilote fait telle action, eh bien là, ça va être telle décision qui va être amenée. Parce que là, j'ai l'impression que les pilotes invités arrivent et n'ont peut-être pas l'expérience non plus pour gérer tout ça.
Mm-hmm. Oui. Quand tu vois que c'est lui aussi, le commissaire et pilote...
C'est peut-être un manque d'expérience.
Mais oui,
plus ça que j'ajouterais.
C'est bien quand tu dis on va inviter un pilote pour apporter son expérience, mais le problème, c'est que des fois, c'est pas un Fernando Alonso, c'est pas un Juan Pablo Montoya, c'est pas des pilotes qui y a de grosses expériences, qui étaient mêlés à des incidents. Des fois, ils vont apporter pour la course des pilotes comme lui aussi, c'est que j'ai parlé maintenant, il a fait quelques sessions en Formule 1 et c'était pas brillant non plus. C'est comme si tu me dirais, OK, on va mettre comme commissaire, je ne sais pas, Palmer.
Mais je.
C'est des fois, c'est des pilotes qui n'ont pas la grosse expérience. Si tu me dis, OK, on va mettre Maldonado, au moins on sait qu'il y a l'expérience.
Mais je ne critique pas l'importance des pilotes ici. Je critique plus le fait qu'ils n'ont aucune expérience décisionnelle en Formule 1. C'est plus mon point de vue, disons.
Mm-hmm. Parce qu'en théorie, les pilotes, ils donnent son expertise, mais c'est quand même le commissaire qui prend la décision. Et les choses que je critique le plus, c'est que la direction des courses, c'est toujours la même. Et pourquoi? Il est qui s'arrive, il dit non, c'est le commissaire. Regarde, je connais des commissaires qui sont toujours dans le circuit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais on voit les faits, mais ce n'est pas nous qui prenons la décision. C'est lui qui est à côté de. qui lance le drapeau bleu, le drapeau jaune. Lui, il ne prend pas la décision.
Mais moi, je suis pas vraiment en accord avec une idée d'avoir des commissaires permanents. Et je m'explique avec des références extra F1. Par exemple, moi, je vois les commissaires comme des arbitres au hockey, par exemple. Parce que, tu vas avoir dans un match, par exemple, entre le Canadien ou les Pingouins, je dis ça de même, tu vas avoir, par exemple, Chris Lee qui va arbitrer le match. Et, par exemple, le lendemain, si c'était, par exemple, une série Canadien-Pingouin, tu peux avoir Wes McCauley qui va arbitrer le match entre les deux équipes. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appliquer le règlement sans, pas nécessairement sans interprétation, mais ils vont être selon le livre des règlements qui est... que tout le monde connaît. Donc, si tu veux que tu aies une rotation, il faut au moins que les commissaires qui sont invités soient en mesure de connaître. Et je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, parce que je pense que, au contraire, que ce soit, par exemple, Pastor Maldonado, Julian Palmer, ou bien même Nick Heidfeld, l'opinion de l'un est aussi importante que l'autre, mais je pense que ça doit se faire selon le livre de règlement qui est écrit noir sur blanc, qui est disponible pour tout le monde sur la FIA, que par exemple Julien et moi, on, on consulte quand il y a des décisions.
Il y a beaucoup de gris. Il y a beaucoup de gris, c'est le problème.
Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gris. C'est vrai. Il y a beaucoup de gris. En Formule 1, c'est un sport plus technique que par exemple, oui, le hockey ou le soccer. Ouais. Mais je crois que quand même, la base, elle doit être apprise normalement par tous les commissaires. Comme ça, au moins, quand il y a une décision à prendre, au moins, on est d'accord. Et on se sert, comme Julien l'a dit, des précédents pour justement être en mesure de servir une pénalité si, elle, si c'est nécessaire.
Je suis d'accord avec toi, mais j'amènerais peut-être une rotation moins intense, intensive qu'on a actuellement, qui, à chaque Grand Prix, ils sont différents, ou du moins une rotation qui est assez incroyable. Tu sais, admettons, on pourrait garder quand même une certaine base. Parce que, par exemple, en série, je reprends ton exemple, en série, il y a des arbitres qui sont, que tu sais, qui vont arbitrer les gros matchs. Parce qu'à ce moment-là, ils vont prendre les bonnes décisions, puis ils vont se fier justement à ce fameux livre. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression actuellement qu'il y en a qui manquent d'expérience et qui, justement, si on faisait une rotation dans la base, ça pourrait peut-être être mieux pour la Formule 1.
Mm-hmm.
Mais rendu là, je pense que c'est un débat qui pourrait durer très longtemps.
Ouais.
On verra ce qui va arriver dans le futur, de mon côté.
Mais aussi, qu'est-ce qui se passe au hockey, c'est qu'au moins, quand il y a des grosses décisions à prendre, ils appellent toujours à Toronto. Ce n'est pas la décision juste qu'ils prennent dans la glace.
Ouais, c'est vrai. Ça
rend plutôt à la Formule 1.
Ouais, exactement. Et, dernier truc aussi, avant de conclure ce bel épisode, est-ce que vous pensez qu'on devrait... Je pense qu'on en avait parlé, Marc-André, dans un des après-courses. Est-ce qu'on devrait interdire aux écuries de parler avec Michael Massey? Parce que c'est bien beau, j'aime bien le côté sas de Michael Massey, mais en même temps, ça commence à devenir redondant. Le cas de Silverstone en a été un, puis on l'a vu à quelques reprises aussi.
Oh ouais.
Donc... Julien, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait bannir les conversations entre... ou bien même ne plus diffuser les conversations entre les écuries et Michael Massey?
Ils sont déjà interdits, hein?
Ouais, mais...
Dans la réglementation, c'est interdit que les boss de l'équipe rentrent dans la salle des commissaires.
Ouais, non, mais je veux dire les conversations radio. Conversations radio.
Non, c'est mieux l'écouter.
Ouais. Mais toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses?
C'est-à-dire, pour ce qui est... c'est une excellente question, là. Est-ce qu'on doit bannir ces fameux messages-là qu'on entend, par exemple, un ingénieur ou un team principal, puis la FIA? Ma tête dit qu'on devrait les bannir, mon cœur dit non, je vais seulement continuer à les écouter parce que c'est beaucoup trop drôle. Surtout, je me rappelle, est-ce que c'était lors du Grand Prix du Mexique, je crois, qu'on a entendu un message ultra ironique de la part de Alpine envers Michael Massey, ou c'était peut-être au Brésil, en tout cas. Bref, parfois, ça donne des messages vraiment croustillants à entendre. Par contre... Outre l'effet spectacle que ça a, je vois pas en quoi ça ajoute quoi que ce soit pour les fans, ne serait-ce que d'élever leur cynisme envers les autorités décidantes, puis les commissaires. Je veux dire, c'est bien que les fans se sentent impliqués dans le processus décisionnel, là, un peu comme une espèce d'observateur omniscient qui voit les conversations entre les team principals puis la FIA. Ceci dit, je trouve que ça enlève un certain sérieux au processus.
Ouais.
C'est peut-être moi qui suis trop rigide. C'est peut-être moi qui suis trop by the book. Puis même si ce fameux livre-là, qui est le Sporting Code Regulation, je pense qu'il est très, très, très mal écrit, avec des amendements à ne plus finir qu'on ne comprend pas, avec des points qui sont rayés. Bref, c'est complètement incompréhensible. Ceci dit, mis à part l'effet spectacle, je vois pas, je suis vraiment pas convaincu présentement de la part des discussions qu'on entend entre la FIA puis les équipes ne serait-ce que pour attiser un certain cynisme des fans.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Julie. On est deux. On est deux. Donc, Anna Maria?
Non, non, pour moi, ça doit rester parce qu'on a cramé et comment certains clarté, qu'est-ce qui se passe? Parce que, en plus, dans les réglementations, c'est dit, et les boss de l'équipe, ils ne devraient pas intervenir avec la FIA. Maintenant, ils le font, mais c'est public, il y a la radio, tout le monde peut l'entendre. Tant pis si ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, comme Toto Wolff qui envoie des messages. Ou comme, je ne sais pas si
vous... Mais pourquoi, Toto? Pourquoi? Tu sais qu'il va passer.
Parce que lui, on dirait que lui, il est très gentil quand tout va bien, mais si c'est fait toucher, ok, c'est autre face. Et ça, c'est beau à voir.
Ouais, le fameux mime du Grand Prix du Brésil, un classique.
Oui, en plus, je ne sais pas, David Tussauds aussi, et j'écoutais Christian Horner, il parlait, il disait, mais j'ai jamais pensé aller à toucher la porte des commissaires, jusqu'à que un jour, Toto Wolff, j'écoutais la radio, il a dit, je vais aller, et lui a dit, ah, mais moi aussi.
Ah, c'est vrai.
Il veut voir qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, et en théorie, c'est interdit. Je n'ai jamais fait parce que sinon, il va se faire punir ou quelque chose. Mais, mm-hmm. Mais dès le moment que Toto a pris la décision, comme quelqu'un qui a le droit, dit, ok, moi aussi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et ça, la radio, je pense que ouais, c'est bien, c'est correct. Au moins, on sait qu'est-ce qui se passe et comme ça, on les laisse moins de chance à l'imagination de penser des choses.
True. Et Marc-André?
Ben moi, j'en ai discuté dans l'après-course l'autre fois. Moi, je les abolirais complètement. Mm-hmm. Par contre, c'est dans la suite d'idées de Drive to Survive, de Netflix, de rapprocher le fan de ce qui se passe sur la piste. Donc, évidemment, c'est une idée qui a été apportée par Liberty Media et je crois que ça le restera justement parce qu'ils veulent plus de spectacles, ils veulent rapprocher le fan qui a tellement été loin en raison de Bernie Ecclestone de la Formule 1. Je crois aussi que c'est une incidence un peu de... On a tellement été rationné longtemps de tout ce qui se passait près de la Formule 1 qu'en ce moment, Liberty Media est très généreux avec les fans, peut-être même trop.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et je pense même que c'est un des rares sports où on peut avoir des discussions franches avec entre un dirigeant puis un arbitre. Parce que c'est sûr, à part peut-être, je me souviens la fois où, je pense, c'était Michel Therrien ou bien André Savard, justement, un match entre les Canadiens et les Pingouins au début des années 2000, était en sacrament là, après la décision des arbitres. Là, puis t'as André Savard qui descend pour aller engueuler l'arbitre aussi. Là, c'était un classique pour moi, mais c'est ça.
Si vous voulez me laisser faire une petite comparaison, là.
Ouais.
Désolé pour nos fans français, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de 24CH.
Oh my God!
Les activités du Canadien. Ben, le Drive to Survive est un peu dans le même style. Par contre, jamais on aurait eu une rencontre entre Brendan Gallagher et le directeur général, par exemple, pour une signature de contrat. Pourtant, on a eu une signature de contrat de commanditaire assez explicite entre Az et les différents commanditaires présentement, qui sont des commanditaires russes et allemands. Donc, ça nous rapproche tellement de choses qui ne nous concernent pas tant. Ce qui est très le fun, mais honnêtement.
mais c'est quand même la réalité actuelle. Parce qu'avant, il n'y avait pas la technologie, fait qu'on avait moins accès à cela, mais ça s'est passé dans le football, référence football. ça se passe toujours qu'il se parlait, on écoutait les gros mots des joueurs de football. Et les directeurs techniques qui intervenaient, et maintenant, tu vois, les arbitres au football, ils ont les micros, hein? Mm-hmm. On écoute tout ce qui se dit. Parce que je pense que ça, c'est la réalité actuelle. Et la Formule 1, mais ils n'ont pas eu le choix. Avant, peut-être, ils n'ont pas passé à la diffusion parce qu'on n'avait pas tout ça, mais quand même, toutes les équipes ont le droit d'écouter tout le monde parce que les équipes ne peuvent pas cacher la caméra de l'auto, ils ne peuvent pas cacher les micros. Tout doit être libre. Pourquoi? Parce qu'il y a des interdictions aussi. Tu ne peux pas lui donner des explications au pilote de faire quelque chose que tu ne peux pas parce que c'est interdit. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit comme ça.
Ouais, c'est vrai. Donc, sur ces magnifiques mots, puis enfin une référence soccer, c'est ce qui complète ce dernier épisode de la saison régulière du bulletin GP. Évidemment, c'est l'épisode numéro 99, mais il y aura un centième épisode et qui aura lieu à la fin de l'année. C'est la revue de l'année de la saison 2021 de Formule 1. Puis, oh boy, qu'on aura peut-être des choses à parler. Alors, donc, ça veut dire qu'on va se revoir pour la podcast officielle dans 3-4 semaines à peu près. Donc, c'est ça, ça va être disponible le 31 décembre. Donc, si jamais vous avez un petit temps, une heure, deux heures pour... entre les préparations pour le jour de l'an, ben vous pouvez écouter la revue de l'année, puis on aura un autre invité pour la revue de l'année. Cet épisode évidemment est disponible sur Spotify et on vous remercie énormément pour votre écoute, votre fidélité, nos ragots hebdomadaires, nos nombreuses références soccer, hockey et tout ça, un classique. Donc évidemment on est disponible aussi sur toutes les autres plateformes de podcast. Évidemment on a bulletingp.com qui est disponible. On va avoir l'avant-course, l'après-course aussi en format podcast pour les Grands Prix d'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi. Et comme je l'ai dit, il y a Histoire de F1 qui va, un épisode d'Histoire de F1 qui va revenir. Puis, je vous donne tout de suite un indice sur le sujet, la Suède. Ouais, la Suède. Donc, une fois que ce sera prêt et publié, je vous dirai pourquoi en fait. Mais sinon, évidemment... Il y a le groupe Facebook que Julien et Émile ont préparé, ont créé il y a de cela un an, F1 Québec. Évidemment, le tout va se retrouver, le lien pour vous joindre est sur notre site bulletingp.com ou bien même la recherche sur Facebook F1 Québec. C'est un magnifique logo bleu avec l'écriture F1 dessus. Donc, c'est vraiment pas difficile à manquer. Puis, évidemment, on vous accepte. Peu importe l'équipe que vous supportez, le pilote que vous aimez aussi. Alors, il n'y a pas de problème. Puis, évidemment, comme on l'a dit, ce sont des discussions franches, memes inclus, évidemment. Alors, Julien, un énorme merci d'avoir été là.
Merci infiniment, Abdou. Merci beaucoup, Marc-André, Anna-Maria également. Ce fut un plaisir de vous parler. Mm-hmm. J'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous encore à plusieurs reprises. Donc, merci de l'invitation. C'était vraiment génial comme podcast. Puis continuez de produire le contenu que vous produisez présentement.
Merci beaucoup. Merci, c'est apprécié. Et écoute, comme on dit, la porte est toujours ouverte. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. La porte est ouverte pour qu'on puisse t'inviter à venir discuter avec nous au podcast.
Avec très grand plaisir. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd.
Exactement. Ça c'est toujours apprécié. Anna-Maria, merci beaucoup pour ta présence, évidemment, cette saison. C'est énormément apprécié. Évidemment, on va continuer à se quereller dans notre groupe privé, dans notre chat privé, évidemment. Mais évidemment, un énorme merci d'avoir été là tout au long de la saison pour tes opinions tranchées, évidemment. Même si on n'est pas d'accord, j'ai toujours... c'est toujours apprécié, même si tu dois supporter toutes mes références soccer et aussi tes petites pointes sur Fernando Alonso.
Oh là là. Non, merci à toi, Adou. Merci, Julien, pour nous accompagner aujourd'hui. Et comme tu dis, on continue à se parler dans les groupes et on attend qu'est-ce qui va se passer.
Oui.
Marc-André?
Oh oui.
Ça va être chaud jusqu'à la fin de la saison.
Ah oui.
J'ai un petit stress en ce moment.
Ah oui. Écoute. Écoute, on a encore 2 semaines de Grand Prix, alors au moins on va pouvoir en profiter. Et Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Évidemment, on va se revoir pour la revue de l'année avec notre invité spécial.
Spécial.
Oui, exactement.
On n'en dit pas plus.
On n'en dit pas plus, mais en tout cas, je pense qu'il a connu Indice. Il a été là au Grand Prix du Canada à Montréal depuis les débuts. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve ce dimanche pour la pré-course du Grand Prix d'Arabie Saoudite et du Grand Prix d'Abu Dhabi la semaine d'après et avec Histoire de F1. Et sinon, pour le podcast original, on se retrouve le 31 décembre pour la revue de l'année. Salut tout le monde!
Salut à tous!
Salut!